Carole Grimaud, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Vous enseignez la géopolitique de la Russie à l'Université de Montpellier. Vous avez fondé le think tank Center for Russia and Eastern Europe Research à Genève. Genève, où vous êtes membre de l'Observatoire géostratégique. En Russie, je le disais, l'heure est grave. La mobilisation partielle provoquée par le succès des contre-offensives ukrainiennes va forcer plusieurs centaines de milliers de Russes à prendre les armes et à aller sur le front. Comment la population, à votre avis, risque-t-elle de le prendre?
Eh bien, cette mobilisation a marqué l'entrée de la guerre dans les foyers russes. C'est effectivement un choc pour de nombreuses familles russes qui sont touchées aujourd'hui. On voit les compagnies aériennes qui sont les vols sont complets pour sortir de la Russie. Donc c'est une mobilisation, mais qui s'effectue un petit peu dans la précipitation et qui a l'air de ressembler plus à une sorte de traque qu'à une mobilisation. Donc on voit tous ces jeunes hommes, ces hommes qui partent de la Russie quand ils le peuvent. On voit des annonces pour éclaircir certains points, quelles catégories, quels hommes, quels réservistes sont désignés. Et puis le lendemain, on a des annonces contradictoires. Je veux parler des étudiants. En premier lieu, hier, les étudiants n'étaient pas concernés. Aujourd'hui, on apprend officiellement que les étudiants qui sont à distance sont mobilisables. Donc la population est totalement dans le flou, est totalement paniquée de ne pas comprendre alors qu'on leur parlait d'opérations spéciales qui suivaient son cours. C'était les annonces jusqu'à présent du gouvernement. Et aujourd'hui, on envoie 300 000 personnes, 300 000 hommes sur le front. 300 000 hommes étant là aussi, le chiffre est flou. Puisque dans le décret qui a été publié, dans ce décret, il n'y a pas de chiffre exact. Donc les 300 000 est un chiffre qui a été donné par le ministre de la Défense, Shoigu, qui a donné donc ce chiffre 300 000 avec des soupçons sur finalement la vérité et le chiffre exact de cette mobilisation qui pourrait être portée à 1 million.
De même, toujours dans la précipitation, il y a l'organisation de référendums d'autodétermination dans 4 régions ukrainiennes. S'ils sont gagnés, ils le seront vraisemblablement, hein, puisque dans cette ambiance, ça paraît difficile qu'ils ne le soient pas. Ça va soumettre des Ukrainiens à la même loi de mobilisation. Ils pourront être eux aussi incorporés dans l'armée russe et ils devront se battre contre leurs compatriotes de l'armée ukrainienne.
Les Ukrainiens qui se trouvent sur les territoires occupés et qui donc vont voter ces prochains jours pour ce référendum, eh bien seront soumis, oui, au droit à la loi russe, et donc la mobilisation s'appliquera certainement également sur ces territoires-là. Donc certains ont compris la menace, les rumeurs circulaient déjà depuis quelques jours et certains ont pu partir, quitter les régions pour retourner donc dans les territoires contrôlés par Kiev, pour ne pas avoir à se battre contre des Ukrainiens, étant Ukrainiens eux-mêmes. Cela semble totalement absurde.
C'est quand même un gros risque que prend le Kremlin, hein, celui d'ouvrir au fond un nouveau front dans sa propre population, hein, comme les Américains au moment de la guerre du Vietnam. En 1970, la garde nationale avait dû tirer sur des étudiants à l'université du Kent. Est-ce que c'est ce qui attend Poutine, à votre avis ?
C'est un gros risque. C'est un gros risque politique à l'intérieur du pays, donc en politique intérieure, par rapport à sa population dont il rompt le contrat, c'est-à-dire le contrat de stabilité, de calme, qui l'a mené au pouvoir finalement en 2000. Ce contrat-là est en train de se déchirer. Et la population se retrouve finalement prise au piège de la stratégie du Kremlin, de cette stratégie impérialiste, et dont ils ne comprennent peu de choses, peu impliqués dans les affaires politiques. Donc ce contrat-là se détériore, et effectivement, Vladimir Poutine joue gros. On peut se demander dans quel état d'esprit ces mobilisés vont arriver sur le terrain. Ces jeunes ou ces hommes un petit peu plus âgés qui vont se retrouver sur le terrain sans avoir véritablement de connaissances militaires, sans avoir participé à aucun combat, on peut se demander quel va être cet état d'esprit, quelles vont être leurs réactions. Alors, il est vrai que les lois se sont durcies, qu'il risque jusqu'à 15 ans de prison pour désertion, mais ne vont-ils pas prendre le risque finalement de déserter le front s'ils n'ont pas pu s'échapper de la Russie? Pourront-ils le faire une fois en Ukraine?
Et on peut se demander pour quel bénéfice, effectivement, puisque que ce soit l'équipement ou la formation de plusieurs centaines de milliers de civils pour en faire des combattants efficaces, ça va prendre du temps. Est-ce qu'il a le temps?
Alors, la formation militaire supplémentaire qui serait assurée avant de les envoyer serait de 2 semaines. Environ 2 semaines, donc pour les former au combat, pour les envoyer ensuite. La précipitation de cette mobilisation, les hommes qui partent déjà, les postes de contrôle qui sont placés aux frontières avec d'autres pays au sud de la Fédération de Russie, le Kazakhstan, la Géorgie, on voit la précipitation, on voit le durcissement et cette précipitation-là qui peut indiquer qu'effectivement il est le but principal est de les acheminer le plus rapidement possible, certainement pour correspondre à la divulgation des résultats des référendums et au process d'incorporation à la Fédération de Russie. Donc tout cela va se jouer très rapidement, d'ici une quinzaine, 3 semaines, peut-être un peu plus. Les premiers mobilisés seront affectés sur le terrain.
Carole Grimaud, on fait une pause, on se retrouve juste après.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce matin avec Carole Grimaud qui enseigne la géopolitique de la Russie à l'université de Montpellier. On l'a dit, en Russie, l'heure est grave. La guerre prend un nouveau tournant parce qu'une fois les 4 régions ukrainiennes annexées par référendum, l'invasion de l'Ukraine, l'opération spéciale, change de nature. Cela devient officiellement une guerre défensive, donc patriotique. Les Russes sont censés défendre le sol de leur pays contre les envahisseurs ukrainiens, soutenus par ce que Poutine appelle l'Occident collectif.
Oui, c'est exactement cela, sauf que la guerre défensive est déjà présentée de cette façon-là depuis quelques mois. C'est-à-dire que assez rapidement après la défaite de Kiev et cette opération spéciale qui aurait dû se dérouler beaucoup plus vite, eh bien le discours a quelque peu changé et on a présenté donc une guerre finalement contre l'Occident collectif, contre l'OTAN et les pays européens qui arment l'Ukraine. C'est devenu de plus en plus courant au fil du temps, cette vision en fait du conflit qui n'est finalement qui est une l'Ukraine ne serait que le théâtre d'opération d'un conflit plus grand qui amènerait donc la Russie à se défendre contre l'Occident collectif qui a décidé de la détruire. Donc là, avec le référendum et l'annexion de ces territoires, effectivement, juridiquement, du côté russe, cela serait effectivement une guerre défensive à proprement parler. C'est simplement c'est le cadre juridique qui là vient confirmer finalement la rhétorique du Kremlin.
Mais aussi le cadre stratégique, parce que si c'est pour protéger la souveraineté, la sécurité, l'intégrité territoriale de la Russie, l'utilisation des armes nucléaires peut se justifier.
Exactement. Les armes nucléaires peuvent se justifier, c'est-à-dire que le gouvernement russe s'autoriserait justement à défendre son territoire tel qu'il le reconnaît, contre l'agresseur ukrainien et avec tous les moyens possibles. C'est bien ce qu'a appuyé Vladimir Poutine lors de sa conférence. Donc tous les moyens possibles, bien entendu, impliquent l'arme nucléaire. Donc c'est une menace adressée à l'Ukraine. C'est une menace aussi adressée à l'OTAN. Pour ne pas interférer dans cette guerre, ligne rouge qui avait déjà été mentionnée dès le début de l'opération, et qui pour l'instant n'a pas été franchi. Il n'y a pas de soldats de l'OTAN en Ukraine et cette ligne rouge est renouvelée, répétée encore aujourd'hui.
Mais à chaque fois que Vladimir Poutine sous-entend qu'il pourrait utiliser l'arme nucléaire, on commence à en avoir l'habitude. Est-ce qu'il peut vraiment l'utiliser? Son entourage peut-il s'y opposer? La menace de représailles peut-elle l'en dissuader? Peut-il en faire usage en Ukraine sans que les Américains répliquent ?
Alors c'est bien compliqué. L'arme nucléaire étant une arme de dissuasion, il peut utiliser cela comme arme dissuasive. C'est ce qu'il a fait depuis le début. C'est ce qu'il fait depuis le début en brandissant cette menace. Les Américains, là aussi, ne riposteraient-ils par une frappe nucléaire ? J'en doute. Maintenant, est-ce que les militaires qui entourent Vladimir Poutine, donc les militaires qui conseillent les politiques qui les entourent, seraient-ils prêts finalement à obéir à cet ordre-là ? Je me demande si à ce moment-là, si ça ne serait pas le tournant définitif, décisif pour Vladimir Poutine. Si jamais il a l'intention d'appuyer sur le bouton des armes nucléaires, sera-t-il suivi par les membres de son conseil d'administration ou son conseil de sécurité qui seraient prêts à le suivre dans cette fuite en avant?
Au fond, la question qui se pose, c'est quel prix Poutine est-il prêt à payer pour gagner, mais aussi ceux qui l'entourent et le peuple russe?
Oui, exactement. C'est à ce moment-là, jusqu'où est-il prêt et jusqu'où ceux qui l'entourent, la population, est-il prête à le soutenir et à approuver ses actions. Donc cette question nucléaire, elle divise beaucoup les Russes, elle divise certainement les militaires, mais les militaires, nous les entendons que très peu. Bien évidemment, ils ne s'expriment pas, mais parmi ces militaires, il y a de nombreux généraux et hauts gradés qui n'approuvent pas cette guerre. Qui obéissent, bien évidemment, ce sont des militaires, mais qui n'approuvent pas. Il arrive un moment, peut-être, où les actions et les décisions politiques seront absolument inacceptables pour les militaires. C'est en tout cas ce que l'on peut envisager.
Mais on a un peu la pression quand même qu'il brûle ses derniers vaisseaux, Vladimir Poutine, parce que les sanctions économiques vont finir par faire leur effet. Or, il se met à dos une partie de sa population. Il va tenter, j'imagine, d'empêcher les Russes de quitter le pays. Il risque de décréter la loi martiale. Il va faire des veuves et des orphelins. Il va voir ses soutiens, comme la Chine et l'Inde, probablement s'éloigner. Et tout ça pour se retrouver face à l'OTAN.
Il est sur une corde raide parce que, évidemment, vous l'avez dit, il est pressé de toutes parts et il joue là certainement une de ses dernières cartes. Il joue là une de ses dernières cartes en espérant probablement que l'annexion de ces territoires qui passeraient au sein de la Fédération de Russie inciterait les Ukrainiens finalement à négocier. Que la menace nucléaire ou les armes nucléaires qu'ils pourraient déployer sur ces territoires convaincraient les forces ukrainiennes finalement de conclure ou un cessez-le-feu ou en tout cas de commencer à entamer des négociations. Je pense qu'il joue là une des dernières cartes parce qu'il en reste peu finalement avec l'arme nucléaire qui est bien sûr la solution la pire. Donc c'est effectivement il est acculé et c'est ce qui fait peur aussi parce que ce président qui est déjà en porte-à-faux dans son pays acculé serait-il prêt à aller jusqu'au bout c'est-à-dire le nucléaire ou bien attend-il finalement les résultats de ce référendum sur le moral des troupes ukrainiennes. Quant à elle, on sait bien que les forces ukrainiennes vont continuer le combat. Il est trop tôt pour savoir exactement de quel côté finalement Vladimir Poutine va tomber parce que forcément il y aura à un moment il y aura une chute, il y aura un moment où il devra revenir sur ses décisions ou bien en interne, comme je vous le disais, une résistance parmi son équipe et tout ce qui l'entoure et tout ce qui le conseille.
Merci Carole Grimaud. On fait une pause, on se retrouve dans un instant avec Sarah Saïdi. On va parler de l'Iran.
Europe 1. 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.